Chapitre 8. Note prise dans la maison en pain d'épices. 1. Eddie regarda les autres. Jake et Roland étaient assis sur les sacs de couchage qu'on leur avait laissés. Otte dormait en rond au pied de Jake. Susanna s'était confortablement calée sur le siège de son tricycle de croisière. Satisfait, Eddie hocha la tête et appuya sur le bouton « lecture du magnétophone ». La cassette se mit à se dérouler. Il y eut un silence, la bande qui défilait, le silence. Puis, après s'être raclé la gorge, Ted Brottigan se mit à parler. Ils l'écoutèrent pendant plus de 4 heures. Eddie remplaçant chaque bande qui s'achevait par la suivante, sans prendre la peine de la rembobiner. Personne ne suggéra de faire une pause. Roland, moins que quiconque, qui écoutait dans un silence fasciné, même lorsque les élancements reprirent dans sa hanche. Roland pensait mieux comprendre maintenant. Il savait en tout cas qu'ils avaient une véritable occasion d'arrêter ce qui était en train de se produire dans la petite ville en contrebas. Le savoir l'effrayait, car leurs chances de réussite étaient minces. Le sentiment de Kashum le démontrait clairement. On ne pouvait mesurer réellement les enjeux avant d'avoir vu la déesse dans sa robe blanche, la déesse chienne dont la manche découvrait un superbe bras blanc, tandis qu'elle murmurait « Viens à moi, cours vers moi. Oui, c'est possible. Tu atteindras peut-être ton but. Tu peux gagner, alors cours vers moi, donne-moi tout ton cœur. Et si je le brise ?» Si l'un de vous tombe, tombe dans le gouffre de Kopha, cet endroit que vos nouveaux amis appellent l'enfer, c'est vraiment trop dommage. Oui, si l'un d'eux tombait dans le Kopha et brûlait en vue des fontaines, ce serait vraiment trop dommage. Et cette garce en robe blanche, eh bien elle mettrait les mains sur ses hanches et balancerait la tête en arrière dans un gigantesque éclat de rire qui durerait jusqu'à la fin du monde. Tant de choses dépendaient de cet homme dont la voix lasse et raisonnable s'élevait à présent dans la grotte. La tour sombre même dépendait de lui, car Brottigan était un homme au pouvoir époustouflant. Le plus surprenant, c'est qu'on aurait pu dire la même chose de Chimie. 2.
Essai 1-2. 1-2. Essai test cassette. Ici Ted Stevens Brottigan, c'est un essai.
Une courte pause. La cassette tournait, une des bobines se dévidant dans l'autre.
Très bien. Fabuleux, en fait. Je n'étais pas certain que cet engin marcherait, surtout ici, mais ça a l'air d'aller. Je me suis préparé à cet exercice en essayant de vous imaginer tous les 4, tous les 5 en comptant le petit ami du jeune garçon, en train de m'écouter parce que j'ai toujours trouvé que la visualisation était une excellente technique pour se mettre en condition. Mais malheureusement, dans le cas présent, ça ne marche pas. Chimie m'envoie de très bonnes images mentales. Des images brillantes, je dois même dire. Mais Roland est le seul d'entre vous qui l'ait réellement vu, et cela remonte à la chute de Gilead, et ils étaient tous deux très jeunes. Sauf votre respect, les gars, mais je soupçonne que Roland, qui arrivera à Tonfoudre aujourd'hui, ne ressemblera pas beaucoup au jeune homme que mon ami Chimie vénérait tellement. « Où es-tu aujourd'hui, Roland? Dans le Maine, à chercher l'écrivain? Celui qui m'a créé, moi aussi, en quelque sorte. À New York, à tenter de retrouver la femme d'Eddie. Est-ce qu'aucun d'entre vous est seulement encore en vie? Je sais que les chances que vous atteigniez Tonfoudre sont minimes. Le cas vous mène vers le Devartois, mais un anti-cas très puissant. » Mis en branle par celui que vous appelez le roi cramoisi, œuvre contre vous et votre tête de 1000 façons différentes. Quoi qu'il en soit, était-ce Emily Dickinson qui appelait l'espoir la chose à plume? Je ne m'en souviens pas. Il y a beaucoup de choses que je ne me rappelle plus, mais il semble que je me rappelle comment me battre. C'est peut-être une bonne chose. J'espère que c'est une bonne chose. Vous ne vous demandez pas une seconde où je suis pour enregistrer tout ça, madame et messieurs ?»
Non, ils ne se l'étaient pas demandé. Ils étaient assis là, hypnotisés par le son légèrement poussiéreux de la voix de Brötigan, faisant tourner une bouteille de Perrier et des biscuits.
« Eh bien, je vais vous le dire, » poursuivit Brötigan. « D'abord parce que les trois d'entre vous qui viennent d'Amérique trouveront sans doute cela amusant. Mais surtout parce que cela vous sera peut-être utile lorsque vous élaborerez un plan pour détruire ce qui se passe à Algulciento.
Tandis que je vous parle, je suis assis dans un fauteuil taillé dans un bloc de chocolat. L'assise est un gros chamallow bleu, et je doute que même les matelas pneumatiques que nous avons l'intention de vous laisser soient plus confortables. On pourrait croire que ce genre de coussin serait collant, mais pas du tout. Les murs de cette pièce, ainsi que la cuisine, que j'aperçois derrière l'arcade en boule de gomme située à ma gauche, sont faits de sucre d'orge vert, jaune et rouge. Si vous léchez le vert, vous constaterez qu'il a le goût de citron vert. Le rouge est à la framboise, même si le goût, dans tous les sens de ce terme farceur, n'a pas grand-chose à faire dans les choix de chimie. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Je crois tout simplement qu'il a gardé une tendresse enfantine pour les couleurs vives et primaires. »
Roland hocha la tête en souriant légèrement.
« Mais je dois quand même dire, »
fit sèchement la voix du magnétophone,
« que j'aimerais bien avoir ne serait-ce qu'une pièce au décor plus discret. » Dans les tons bleus, peut-être, ou un camaïeu de teintes automnales, ce serait encore mieux. Puisqu'on parle de teintes automnales, les escaliers sont eux aussi en chocolat. La rambarde est un sucre d'orge arrondi au bout. On ne peut pas parler des escaliers qui mènent à l'étage, parce qu'il n'y a pas d'étage. Par la fenêtre, on aperçoit des voitures qui ont un air suspect de bonbons avec des roues, et la rue elle-même a l'air en réglisse. Mais si on ouvre la porte et qu'on monte ne serait-ce qu'une marche vers Twizzler Avenue, on se retrouve à la case départ, dans ce qu'on pourrait aussi appeler le monde réel, faute d'une expression plus subtile. La maison de la sorcière, ou encore la maison en pain d'épices, et nous l'appelons ainsi parce qu'à l'intérieur flotte toujours une odeur de pain d'épices chaud, tout juste sortie du four, et tout autant une création de Dinky que de Chimmy. Dinky a atterri dans le dortoir de Corbett avec Chimmy, et il a entendu Chimmy pleurer en s'endormant un soir. Beaucoup de gens dans cette situation auraient passé leur chemin, et je me rends compte que personne ne ressemble moins au bon samaritain que Dinky Earnshaw. Cependant, au lieu de passer son chemin, il a frappé à la porte des appartements de Chimmy, et il a demandé s'il pouvait entrer. Si on lui pose la question aujourd'hui, Dinky vous dira qu'il n'y a pas de quoi en faire toute une affaire. Je venais d'arriver, je me sentais seul et je voulais me faire des amis, vous dira-t-il. Entendre un type chouiner comme ça, ça m'a fait penser que lui aussi, il avait peut-être besoin d'un ami. Comme si c'était la chose la plus naturelle qui soit. C'est peut-être vrai dans la plupart des endroits, mais pas à Algulciento. Et c'est cela qu'il faut surtout comprendre avant tout, je crois. Si vous voulez nous comprendre, nous. Aussi, pardonnez-moi si je m'appesantis un peu sur le sujet. Certains des gardes Hume nous appellent des morques, d'après une série télé avec des extraterrestres. Les morques sont les créatures les plus égoïstes qui soient sur Terre. Antisociaux, pas exactement. Certains sont au contraire extrêmement sociaux, mais seulement dans la mesure où ça les aide à obtenir ce qu'ils veulent ou ce dont ils ont besoin.
Très rares sont les morques sociopathes, mais la plupart des sociopathes sont des morques, si vous voyez ce que je veux dire. Le plus célèbre d'entre eux, et Dieu merci, les ignobles ne nous l'ont jamais amené ici, était un tueur en série du nom de Ted Bundy. Si vous avez une ou deux cigarettes en trop, vous ne trouverez pas compagnon plus compréhensif, ou flagorneur, qu'un morque qui a besoin d'une sèche, mais une fois qu'il l'a cependant, plus de traces de lui. La plupart des morques, je veux dire 98 à 99% d'entre eux, auraient entendu les sanglots de l'autre côté de cette porte et n'auraient même pas fait mine de ralentir le pas. Dinky, lui, a frappé et demandé s'il pouvait entrer, alors qu'il était nouveau dans le coin et légitimement perdu. Il pensait aussi qu'on allait le punir pour le meurtre de son ancien patron, mais il nous faut garder cette histoire pour un autre jour. Et nous devrions considérer les choses du point de vue de chimie. Je répète que 98 ou 99% des morts auraient répondu à une question de ce genre en beuglant « Allez au diable !» ou même « Va te faire foutre !» Pourquoi ? Parce que nous avons une conscience aiguë d'être différents de la majorité des gens, et que cette différence est rarement appréciée. Pas plus que les premiers hommes de Néandertal n'apprécièrent les premiers Cro-Magnons qui pointèrent leur nez dans les parages, j'imagine. Les morques n'aiment pas être pris au dépourvu.
Une pause. La bande continuait de défiler. Tous les quatre entendaient presque Brötigan réfléchir intensément.
« Non, ce n'est pas tout à fait exact, » finit-il par ajouter. « Ce que les morques n'aiment pas, c'est être surpris dans un état de vulnérabilité émotionnelle. La colère, le bonheur, les larmes de joie ou d'hystérie, ce genre de manifestation, c'est comme si vous autres vous retrouviez dans une situation dangereuse sans vos armes. Pendant longtemps, j'ai été seul ici. J'étais un morque avec des émotions, que ça me plaise ou non. Et puis est arrivé Chimie, assez courageux pour accepter d'être réconforté si on lui offrait du réconfort. Et Dink, désireux de faire un geste vers lui. La majorité des morques sont des introvertis égoïstes, se faisant passer pour des individualistes acharnés. Et le personnel d'Algul adore ça, vous pouvez me croire. Il n'existe pas communauté plus facile à diriger que celle qui rejette le concept même de communauté. Vous voyez pourquoi j'ai été attiré par Chimie et Dinky, et la chance que j'ai eue de les trouver. »
Susanna glissa sa main dans celle d'Eddie. Il la prit et la serra avec douceur.
« Chimie avait peur du noir, » poursuivit la voix de Ted. « Les crapules de bas étage, je les mets tous dans le même panier car ils sont tous aussi ignobles, bien qu'il y ait aussi des taïnes et des humes à l'œuvre ici, en plus des cantois. Ils disposent d'une douzaine de tests sophistiqués pour évaluer le potentiel psychique, mais ils n'ont pas eu l'air de se rendre compte qu'ils avaient attrapé un idiot qui avait peur du noir. Pas de chance pour eux. » Dinky a tout de suite compris le problème, et il l'a résolu en racontant des histoires à Chimie. Les premières étaient des contes de fées, dont Hansel et Gretel. Chimie était fasciné par l'idée d'une maison en bonbons et n'arrêtait pas de demander des détails à Dinky. Aussi, voyez-vous, c'est en fait Dinky qui a imaginé le fauteuil en chocolat avec le coussin en gros chamallow bleu et l'arcade en boule de gomme et la rambarde en sucre d'orge. Pendant une courte période, il y a bel et bien eu un étage pour les lits des trois ours. Mais Chimie n'a jamais vraiment apprécié cette histoire et quand elle lui est sortie de la tête, le premier étage de Casa Pain d'Épices,
Ted Brötigan émit un petit gloussement.
On pourrait dire qu'il s'est biodégradé, j'imagine. Quoi qu'il en soit, je crois que l'endroit dans lequel je me trouve en ce moment est en fait une fistule dans le temps où... »
Il marqua une nouvelle pause, puis soupira.
« Écoutez, il y a un milliard d'univers qui contiennent un milliard de réalités différentes. C'est une chose que j'ai fini par comprendre depuis qu'ils m'ont ramené de force de ce que ce Kidam sentait à appeler ma petite escapade dans le Connecticut. Espèce de salopard de lèche-botte. »
C'était de la haine véritable dans la voix de Brottigan, constata Roland. Et c'était une bonne chose. La haine était une bonne chose, et utile.
Ces réalités sont comme un labyrinthe de miroirs, sauf qu'il n'existe pas de reflets rigoureusement identiques. Je finirai peut-être par revenir à cette image, mais pas encore. Ce que je veux vous faire comprendre, ou seulement accepter, pour l'instant, c'est que le réel est organique. Le réel est vivant. Il est comme un muscle. Ce que fait chimie, c'est percer un trou dans ce muscle avec une seringue mentale. Il n'y a que lui qui dispose de cette aiguille parce qu'il est spécial.
« Parce que c'est un morc, » murmura Eddie.
« Chut !» ordonna Susanna.
« L'utiliser !» conclut Ted.
Roland songea à rembobiner la cassette pour retrouver les mots manquants, puis décida que ça n'avait pas d'importance.
« C'est un endroit hors du temps, hors du réel. Je sais que vous savez des bribes de choses concernant le fonctionnement de la tour sombre. Vous en comprenez le but d'unification. Eh bien, considérez la maison en pain d'épices comme une galerie donnant sur la tour. » En venant ici, on est à l'extérieur de la tour, mais toujours rattaché à la tour. C'est un endroit réel, assez réel pour que j'en revienne avec des taches de colorant sur mes mains et mes vêtements, mais un endroit auquel seule chimie ruise a accès. Et une fois qu'on y est, ça ressemble à ce qu'il veut. On pourrait se demander, Roland, si vous et vos amis aviez la moindre idée de ce qu'était chimie et de ce qu'il pouvait faire quand vous l'avez rencontré à Méris.
Roland tendit alors le bras pour appuyer sur le bouton stop du magnétophone. Nous savions qu'il était étrange, dit-il aux autres. Nous savions qu'il était spécial. Parfois, Cuthbert disait: « Mais qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Il me donne des frissons. » Et puis il a débarqué à Gilead, lui et sa mule, Capi. Et nous savions que c'était impossible, mais il se passait tant de choses alors qu'un garçon de saloon venu de Méris, pas finaud mais jovial et serviable, était le cadet de nos soucis.
« Il s'est téléporté, n'est-ce pas ?»
demanda Jake. Roland, qui n'avait encore jamais entendu ce mot avant ce jour, acquiesça instantanément. Sur une partie du trajet, du moins. Forcément. Pour commencer, comment aurait-il pu traverser le fleuve Xei? Il n'y avait qu'un seul pont, un pauvre pont en cordage, et une fois qu'on l'a eu passé, Alain les a coupés. Nous l'avons regardé tomber dans l'eau quelques 1000 pieds plus bas.
« Peut-être qu'il a fait le tour ?»
suggéra Jake. Roland hocha la tête. « Peut-être, oui. Mais ça lui aurait fait faire un détour d'au moins 600 roues. » Susanna émit un sifflement. Eddie attendait de voir si Roland avait quelque chose à ajouter. Quand il parut clair que tel n'était pas le cas, il enclencha de nouveau le bouton lecture. La voix de Ted s'éleva dans la grotte.
« Chimie est un téléport. » Dinky lui-même est un précog, entre autres. Malheureusement, bon nombre d'issues lui sont fermées dans l'avenir. Et si vous vous demandez si le jeune Cy Earnshaw prévoit comment tout cela va se terminer, la réponse est non. Quoi qu'il en soit, voici ce trou hypodermique dans la chair vivante du réel. Cette galerie qui court sur le flanc de la tour sombre, cette maison en pain d'épices. Un lieu réel, bien que ça vous paraisse sans doute difficile à croire. C'est ici que nous emmagasinerons les armes et le matériel de camping que nous avons l'intention de vous laisser, dans l'une des grottes au bout de Stecktet. Et c'est ici que j'enregistre cette cassette. Quand j'ai quitté ma chambre avec cette machine antédiluvienne mais efficace sous le bras, il était 10h14 du matin, heure locale. Quand j'y retournerai, il sera 10h14 du matin. Peu importe le temps que ça me prendra ici. Et ce n'est qu'un des avantages considérables de la maison en pain d'épices. Je veux que vous compreniez bien une chose. Peut-être que Roland, le vieil ami de Chimie, la comprend déjà. C'est que nous sommes trois rebelles dans une société dont la devise était « Pas de vagues ». Rien qui dépasse, même si ça signifie la fin de toute existence. Et le plus tôt sera le mieux. Nous possédons un certain nombre de talents hautement utiles, et en les mettant en commun, nous avons réussi à garder une longueur d'avance. Mais si Prentice ou Finley Otego, c'est le chef de la sécurité de Prentice, découvre ce qu'on est en train d'essayer de faire, Dinky nourrira les vers de terre avant la tombée de la nuit. Et Chimie aussi, très probablement. Moi, je ne me serais sans doute pas inquiété tout de suite, pour des raisons que je vais vous expliquer. Mais si Pimli Prentice s'aperçoit que nous avons l'intention de lui mettre un vrai pistolero sur le dos, un pistolero qui a déjà orchestré la mort de plus de 5 douzaines de Cap-Vertes tout près d'ici, alors même ma propre vie sera en jeu. Une pause. Pour le peu qu'elle vaut. Il s'interrompit un long moment. La bande était à présent à demi dévidée. Alors écoutez, et je vous conterai l'histoire d'un homme infortuné et malchanceux. Ce sera peut-être une histoire un peu trop longue, car vous manquez de temps. Auquel cas je suis certain que 3 d'entre vous au moins connaîtront l'utilité du bouton « avance rapide ». Quant à moi, je me trouve dans un lieu où les pendules sont obsolètes et où le brocoli est sans doute interdit par la loi. J'ai tout mon temps. Eddie fut de nouveau frappé par la lassitude dans la voix de cet homme. Je vous suggère seulement de n'accélérer la bande que si vous le devez vraiment. Comme je l'ai déjà dit, vous trouverez peut-être des choses utiles dans ce récit, bien que je ne sache pas quoi. J'ai trop le nez dessus. Et j'en ai assez d'être toujours sur mes gardes, pas seulement quand je suis éveillé, mais quand je dors aussi. Si je n'arrivais pas à m'évader de temps à autre pour venir dormir tranquillement à la maison en pain d'épices, il y a longtemps que les gars qu'Antoine de Finley nous auraient embarqués tous les 3. Il y a un canapé dans le coin, lui aussi fait de ces merveilleux chamallows non collants. Je peux m'y allonger, y piquer un somme, avoir tous les cauchemars nécessaires à ma santé mentale. Et puis je retourne au Devartois où mon travail ne consiste pas seulement à me protéger moi-même, mais à protéger Chimie et Dink également. À m'assurer que, quand nous œuvrons à couvert, il apparaît sur ce putain de télémètre que nous sommes restés exactement là où nous étions censés être. Dans nos appartements, dans le bureau, peut-être en train de gober un film aux bijoux ou d'acheter des glaces à l'épicerie d'Henry Graham après la séance. Cela signifie aussi continuer à briser. Et chaque jour je sens le rayon sur lequel nous travaillons en ce moment. Ours et tortues. Plié de plus en plus. Dépêchez-vous d'arriver, messieurs. C'est tout ce que je vous souhaite. Faites aussi vite que vous le pourrez, parce qu'il n'y a pas que moi ici. Dinky a un caractère de cochon et une fâcheuse tendance à avoir la dent dure et à se lancer dans des tirades légèrement grossières si on le pousse un peu. Dans un état pareil, quelque chose pourrait lui échapper. Et Chimie a beau faire, de son mieux, il suffirait que quelqu'un lui pose la mauvaise question ou le prenne la main dans le sac quand je ne suis pas dans les parages pour rattraper le coup. Brotigan ne poursuivit pas le raisonnement.
et compte tenu de son auditoire, ça n'était pas nécessaire. 3. Lorsqu'il reprend son récit, c'est pour leur raconter qu'il est né à Milford, dans le Connecticut, en 1898. Nous avons tous déjà entendu des introductions de ce genre. Assez pour savoir quelles sont l'annonce, pour le meilleur ou pour le pire, d'un passage autobiographique. Pourtant, tandis qu'ils écoutent cette voix, les pistoleros se sentent habités d'une autre familiarité. Et elle vaut aussi pour Othé. Tout d'abord, ils se trouvent dans l'incapacité de la nommer, puis elle finit par leur apparaître comme une évidence. L'histoire de Ted Brottigan, comptable vagabond plutôt que prêtre vagabond, est par bien des aspects semblable à celle du père Donald Callahan. Ils pourraient presque être jumeaux. Et le sixième spectateur, celui tapi derrière l'entrée obstruée de la grotte, dans les ténèbres battues par le vent, écoute avec une compassion et une compréhension croissantes. Et comment faire autrement? L'alcool ne joue peut-être pas un rôle majeur dans le récit de Brottigan, mais il reste une histoire de dépendance et d'isolement. L'histoire d'un exclu.